Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 30. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Laurent Tessier, Greg Caradoni et Cyprien Cini.
Ça va Cyprien?
Impeccable, je suis content de vous voir.
Tout pareil.
Bienvenue.
De retour de virus.
Voilà, de retour de virus. Brice du génie.
En plein dedans.
En plein dedans. Et Marie Mollet, on l'embrasse, elle est qu'à contact.
Et la distance.
Salut tout le monde.
Dans son salon.
Dans mon salon, exactement.
Ah, elle va pas mal cette équipe. Hein.
Alors, on est bien là.
À quel tour?
Décimée.
Décimée. 19h19, vous commentez, vous réagissez, vous avez le compte Twitter, la page Facebook de l'émission. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est un bonheur de vous accompagner, bien sûr, de vous informer, des choses sérieuses, mais le tout en mode détendu. C'est parti. On défait le monde. Voici le sommaire.
On défait le monde au cœur du pouvoir. Ce soir, on vous emmène dans les coulisses, dans les secrets de l'Élysée. Vous découvrirez comment Emmanuel Macron a décidé de reconfiner dehors tout le pays. Pas de chasse aux œufs, mais une chasse au trésor, une vraie. Il y aurait environ 600 trésors cachés sur notre territoire. On vous éclaire sur ces milliers de pièces d'or qui dorment sous nos pieds. Comme tous les vendredis, vous découvrirez le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, c'est un peu cauchemar en cuisine.
Eh oui, un grand amoureux de la cuisine, un mafioso trahi par ses tatouages.
Le billet retour dont défait le monde quand on revient sur une info qui a fait la une et qui a disparu de la circulation cette semaine, Laurent. Vous faites le point sur l'affaire dite des bébés sans bras dans l'Ain.
Oui, 3 ans après que l'affaire soit sortie, les experts n'ont toujours pas le même avis.
D'ici 20h, vos 3 infos pour briller au dîner. Dans Marche ou Rêve, en ce week-end pascal, on partira à la rencontre d'un prêtre pas comme les autres. Et évidemment, le cadeau. Et ce soir, on vous noie sous le chocolat et ensuite on vous offre 1 an de coaching pour vous remettre. On défait l'onde, prend soin de vous. Saison 2, pour épisode 30.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure.
Attention, Stéphane Carpentier, le retour.
Allez. On défait le monde dans RTL Soir.
Formidable, vos commentaires attendus sur la page Facebook de l'émission. On y va pour le surf. Le surfeur de la semaine, c'est Cyprien Cini.
Et à la fin de cette semaine, qu'on peut considérer comme mouvementée, hein, on ne peut qu'avoir une pensée émue pour les membres du gouvernement. Oui, parce que bosser avec Emmanuel Macron, ça doit être quand même quelque chose. Hein. Imaginez, vous êtes ministre de l'Intérieur. Et puis alors, le mardi, vous dites que ça sent le week-end de tous les dangers, hein, niveau déplacement pour Pâques. Oui, le week-end.
Ici le week-end de Pâques, de ce week-end de haut risque.
Oui, week-end de haut risque, du coup. À grand renfort de communication, vous promettez l'artillerie lourde anti-déplacement.
Et donc des contrôles qui seront encore renforcés, ces contrôles intensifs dès jeudi sur les péages dans les gares.
Contrôles renforcés, plans épervier intensifs, péages, gares, ils seront partout. Et là, le lendemain, t'as le patron qui balance.
Nos citoyens qui souhaitent changer de région pourront le faire durant ce week-end de Pâques.
Voilà, hein, en fait c'est open bar, hein, et tes contrôles renforcés, bon ben, à la poubelle. Hein. Pareil, augmenter les capacités de réa, impossible, des mois qu'on entend.
Vous le savez très bien, messieurs les députés, former des réanimateurs, des médecins, des infirmiers anesthésistes, réanimateurs, ça n'est pas possible, chacun le sait.
Mais oui, tout le monde sait ça, enfin tout le monde, sauf le patron en fait. Hein.
Augmenter nos capacités en réanimation. Le nombre de lits en réanimation a déjà été porté à 7000. Pour porter dans les prochains jours notre capacité à un peu plus de 10 000 lits.
Voilà, débrouillez-vous avec ça les gars, on augmente. On espère quand même qu'ils ont négocié une prime de pénibilité les ministres. Sinon, sur le front de la culture, Francis Lalanne, ça va pas mieux. Maintenant, notre Jean Moulin au Catogan fait des concerts de rue en racontant n'importe quoi.
Donc je vous propose de commettre un délit sous les yeux des forces de l'ordre qui ne diront rien. Je vous propose de vous embrasser les uns les autres. Que tous ceux qui vont voir la vidéo dans les rues s'embrassent les uns les autres.
Ouais, tout le monde s'embrasse, comme ça on remplit les réas qu'on augmente, formidable. Et là on a frôlé le gros malaise, écoutez bien Francis.
Qui m'embrasse?
Il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui aille embrasser là, sinon ça va devenir gênant. Bon, à part ça, on a trouvé la phrase à archiver de la semaine. Xavier Bertrand, vous savez, qui a fait lever les foules en annonçant sa candidature à la présidentielle, qui a dit ce matin sur Info à propos des régionales où il est candidat aussi.
Les choses sont très claires. Si je perds, ça sera terminé de ma vie politique.
Alors celle-là, vous savez quoi? On va se la garder bien au chaud, hein, on sait jamais. Enfin, c'est devenu l'un des feuilletons phares du surf de la semaine. El retorno del Manolo. Le retour en France de Manuel Valls. qui a expliqué cette semaine sur Europe.
Je dis que je ne suis candidat à rien.
Mais oui, rien du tout, Manuel Valls, rien, nada, il est rentré pour sucrer les fraises.
Pipo, pipo.
Hop, 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 qui a dit ça? Bon alors, c'est vrai quand même que quand on écoute l'interview dans son intégralité, le gars te fait le combo CV plus lettre motivation, l'air de rien, c'est formidable.
J'ai été l'un des premiers responsables politiques à m'élever contre l'islam. J'étais ministre de l'Intérieur, j'étais premier ministre. Je reviens dans le débat politique au nom des idées.
C'est toute ma vie, vous savez, la France.
Je ne veux pas qu'il sombre, je ne veux pas qu'il se donne à Marine Le Pen.
Oui bon, ça va, en fait on a compris, il est candidat à peu près tout ce qu'il peut trouver. Alors, pour savoir si Manolo retrouvera du boulot et pour tout le reste, eh ben vivement la semaine prochaine.
Vivement la semaine prochaine, le surfeur de la semaine, c'est Cyprien Signy. Vous allez retrouver tout cela très très vite après l'émission sur le podcast, évidemment, sur l'appli RTL.
Oui, et aussi sur le compte Twitter RTL France et sur On défait le monde, parce que maintenant on accueille Cassandre dans l'équipe qui va nous aider à mettre tout ça sur le net.
Ah, il y a des gros moyens.
Il y a des gros moyens.
RTL Soir, on défait le monde.
Allez, 19h24, c'est parti pour la grosse info de ce soir et c'est une immersion, Cyprien, à l'Elysée.
Oui, alors les annonces présidentielles de la semaine ont fait jaser, on en parlait, mais c'est surtout la façon dont ont été prises ces annonces qui nous a intéressés. Alors, pour tenter de comprendre comment le président décide, eh ben on n'a pas lésiné sur les moyens, gros budget, on a carrément et exceptionnellement fait appel au chef du service politique de RTL. Bonsoir Benjamin Sportouche.
Bonsoir Cyprien, bonsoir à tous.
Bon alors d'abord cette date de mercredi, oui. C'était décidé depuis longtemps?
Eh bien écoutez, sur nos informations Cyprien, c'est dès dimanche dernier qu'Emmanuel Macron avait prévu de s'exprimer mercredi. Alors la pression était forte, hein, il faut bien le dire, après la tribune des blouses blanches dans le journal du dimanche. Alors nous ici à RTL, nous avions cette date dès dimanche, mais on a demandé à l'Élysée confirmation, on ne l'a pas eu. C'est pour ça qu'on a parlé d'hypothèse. Alors, on reste en effet très prudent, vous savez, depuis fin janvier.
Ah bah oui.
Et la décision d'Emmanuel Macron, bien oui, vous vous souvenez, hein, de ne pas reconfiner, une décision qui avait surpris tout le monde, y compris, hein, il faut bien le dire, le Premier ministre lui-même.
Et nos amis du journal du dimanche, qu'on salue.
Exactement. Vous vous souvenez de ça aussi, ouais, tout à fait. On ne va pas rejeter la pierre, hein, ça nous arrive aussi
non,
à nous.
Évidemment.
Mais bien sûr. Mais vous savez, comme on le dit souvent, le président de la République veut rester le maître du temps, au moins pour le timing de son intervention présidentielle, parce que pour le reste, il l'a reconnu lui-même, c'est le virus qui est devenu le vrai maître des horloges.
Mais alors, il y a quelque chose quand même qui circule un petit peu partout, qu'on peut lire dans la presse. Mmh. Tout le monde dit qu'il gouverne seul, tout seul. Mais c'est vraiment le cas?
Alors écoutez, complètement seul, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a un petit cénacle hein, autour de lui, une sorte de task force, avec notamment le secrétaire général de l'Élysée, un fameux célèbre désormais, Alexis Kohler. Et puis il y a aussi quand même le Premier ministre. D'ailleurs, pour vous raconter comment se sont décidées les mesures annoncées mercredi, il y a eu une réunion à l'Élysée mardi matin avec Jean Castex et seulement deux autres ministres, Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran.
C'est ça le fameux conseil de défense?
Non, ça c'était avant le conseil de défense. Vous voyez, il y a eu une sorte de pré-conseil de défense. Et puis attendez, le mardi soir, dîner dans les jardins de l'Élysée, ça je peux vous le dire, sur la table en teck de la terrasse de l'Élysée, une tablée ultra sélecte à la lumière des lanternes avec les hommes du président. Il y a donc notamment Alexis Kohler dont je viens de parler et le Premier ministre. Et à ce moment-là, dans le plus grand secret, tout est acté.
Ah, mais il consulte quand même des gens un petit peu avant de décider comme ça, parce que c'est quand même de la spécialité médicale. Donc il est seul avec Jean Castex à la lumière de la lanterne. Bah, là,
savez,
okay,
dit, c'est vrai qu'il a d'autres contacts. On appelle ça aussi les capteurs, hein, vous savez, dans le jargon politique, c'est-à-dire souvent des élus locaux qui lui font remonter ce qu'ils entendent sur le terrain. C'est par exemple le cas de Carl Olive, vous savez, le maire de Poissy, qu'on a souvent entendu sur RTL, le maire de Poissy dans les Yvelines, qui le bombarde de textos ou de messages. Telegram, vous savez, Telegram, c'est la messagerie dont le chef de l'État est le plus friand.
Mais alors, au final, c'est quand même le président qui tranche.
Ah oui, clairement, oui. Hein. Et j'allais vous dire, de plus en plus au fil de la crise sanitaire depuis un an. Et selon une excellente consoeur journaliste au Monde, Emmanuel Macron aurait dit cette semaine à l'un de ses visiteurs du soir, « Si je ne fais pas tout, tout seul, rien ne se passe. » Voilà, tout est dit. Alors, vous allez me dire, mégalomanie liée au pouvoir ou alors impératif hein, lié aux institutions de la 5e. Chacun se fera son idée, mais tous les présidents ont un jour ou l'autre jugé que sans eux, point de salut, rien ne pouvait se passer.
Et alors sur les annonces, pour revenir aux annonces de mercredi, tout s'est accéléré. Et alors, qui était dans la confidence? Qui savait ce qu'il allait annoncer avant?
Écoutez, très peu de monde. Hein. Emmanuel Macron est obsédé par les fuites. C'est vrai qu'il y en a après chaque conseil de défense. Mercredi soir, donc, Jean Castex a convoqué ses ministres par Zoom très tard, à 18h30 seulement, pour leur annoncer les décisions qui avaient été retenues. Ouais. Et figurez-vous que pendant que le Premier ministre parlait, tout sortait sur une chaîne d'information en continu, CNews, pour ne pas la citer. Jean Castex hein, est alors prévenu par l'une...
Au fur et à mesure ?
Eh bien oui, on voyait des petits bandeaux, vous savez. Alors là, eh bien, il est prévenu, par l'une de ses ministres, hein, Annick Girardin.
Pour Annick Girardin, regarde CNews alors.
Vous savez, elle est ministre de la mer. Alors elle était là, elle regarde l'écran, et donc elle dit, mais c'est pas possible, tout sort en même temps. Alors Jean Castex a été un peu agacé, un peu beaucoup même. Il a pété un plomb, même raconté un conseiller de l'exécutif, et donc il a rappelé tout le monde à l'ordre. Et pendant ce temps à l'Élysée, eh bien Emmanuel Macron, lui, se préparait pour enregistrer son allocution, un peu en catastrophe, hein, il faut bien le dire, une heure seulement avant sa diffusion. Ce qui explique aussi, Cyprien, les petits savonnages. Vous savez, on a vu que le...
Un peu plus que d'habitude,
c'est vrai. Un peu plus que d'habitude. Eh bien voilà, c'est pour ça, parce que le président de la République n'a pas pu se réenregistrer, c'était une prise, comme on dit au cinéma. Voilà.
Merci de nous avoir fait pénétrer dans les coulisses de l'Élysée et du pouvoir, hein, exceptionnellement. Et je dis qu'on vous retrouve aussi dimanche,
oui,
dans le grand jury.
Ça, oui. Avec
Bruno Le Maire,
exactement, mise à l'économie.
Vous aussi, vous serez sans filet, comme Emmanuel Macron.
Ah, bah, comme
attention, place à Bonnet.
Ah, je vais essayer.
Allez, merci, Benjamin Sportouf.
19h29.
À suivre dans On défait le monde.
La première info pour Brio, dîner de la soirée, qui concernera la disco. On allumera la lumière sur les trésors. Et puis, il y aura le jeu, évidemment. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la première ce soir, vous êtes habitués, il y en a trois au total. Et pour mon retour, je m'auto-désigne président, je vais désigner la
ça
meilleure
commence,
info ce soir. Je remets le paquet, tiens. Et c'est Marie qui commence et qui parle musique.
Oui, puisque cette semaine, on a appris, vous le savez, la disparition de Patrick Juvet, hein, vedette du disco, célèbre pour son tube Où sont les femmes. Et ça m'a donné envie de vous parler d'un objet, peut-être le symbole du disco, à savoir la boule à facettes. En fait, cette invention géniale ne date pas du tout des années 70, mais incroyable, du 19e siècle. Elle a plus de 100 ans. La première trace d'une boule à facettes remonte à 1897 pour un bal d'un quartier de Boston. Un syndicat d'électriciens avait mis au point une boule miroir, un bijou de technologie à l'époque, censé inonder de lumière la piste de danse. Elle a ensuite été brevetée, s'est répandue au cours des années 20, jusqu'à son âge d'or, les années disco, les années Patrick Juvet.
Ça, je vous mets pas la pression, les garçons.
Elle est bonne,
mais
elle est bien, cette
info pour vous.
Bon courage aux autres.
On n'est pas bien là.
Signé Marie Mollet.
Allume la lumière.
Allume la lumière dans On défait le monde quand un expert nous éclaire sur l'actualité.
Et cette semaine, on a pu lire dans Ouest France un article qui nous a fait, on va le dire, rêver. Écoutez plutôt, il y aurait en France plus de 600 trésors cachés un peu partout sur le territoire.
Alors forcément, on a eu envie d'en savoir plus. Quels sont ces trésors? Si on en trouve un, on fait quoi? Et bien sûr, est-ce que n'importe qui peut s'improviser chercheur de trésors?
Et pour répondre à ces questions, on a contacté Christian Doumergue. Il est auteur de Trésors historiques, mythiques et légendaires. 40 enquêtes minutieuses sur les plus grands trésors au monde aux éditions de L'Opportun. Et alors d'abord, la première question, c'est quoi ces 600 trésors qui se cacheront en France?
Alors ces trésors, c'est très divers. Hein. Ça peut être des dépôts qui ont été faits dans des périodes un peu troubles, hein, période de guerre à différents moments de l'histoire, qui ont été cachés et puis oubliés parce que les gens qui les ont dissimulés sont morts. Ça peut être des trésors historiques aussi parce qu'on a un certain nombre de trésors en France comme le trésor des Visigoths dont on perd la trace, qui est un trésor tout à fait colossal. C'est des trésors qui sont, comme on imagine, des pièces d'or, qui peuvent être dissimulées dans des maisons. Il y en a beaucoup, des découvertes de trésors monétaires cachés dans des anciennes habitations. Ça peut être des trésors enterrés aussi. Des trésors, on en trouve régulièrement et très souvent, c'est des découvertes fortuites par hasard, à l'occasion de travaux de rénovation dans des habitations anciennes. Et là, on en a beaucoup. Pareil, à l'occasion de travaux, quand on va creuser ou de travaux agricoles, on a souvent des trésors qui sont déterrés. Donc 600, ça me semble tout à fait réaliste. Oui. Alors il y a une part de légende qui est importante évidemment parce que les trésors ont toujours fasciné, ça parle à nos âmes d'enfants. On a gardé des histoires de trésors qui ont circulé de génération en génération. Mais ce qui est fascinant dans cette histoire de légende de trésors, c'est que des fois la légende se vérifie.
C'est incroyable. On va être très concret, Cyprien. Si je trouve un trésor, il se passe quoi?
Ah c'est le jackpot. Hein. Écoutez notre spécialiste Christian Doumergue.
Le trésor appartient, quand on est chez soi, au propriétaire. Si un trésor est trouvé chez une autre personne, en fait, à ce moment-là, partage entre les deux personnes, l'inventeur et le propriétaire. Il y a une affaire qui est tout à fait extraordinaire qui s'est passée fin des années 30 à Paris. C'est le trésor de la rue Mouffetard. On détruit de vieilles habitations parisiennes à cette époque-là. Et donc, c'est des ouvriers qui s'en chargent, évidemment. Et dans les décombres, ils vont trouver des paquets remplis de ce qu'ils prennent pour des jetons de jeu, en fait, lors de la découverte. Ils n'imaginent pas que c'est un trésor de pièces d'or qu'ils ont découvert. Et donc, ils vont ramener chez eux ces médailles en se disant que ça amuserait leurs enfants. Et la stupeur, en fait, c'est des louis d'or. Il en a ramassé quand même 328. Donc, après ça, évidemment, les autorités vont s'emparer de l'affaire. On va trouver quasiment 2000 louis d'or qui étaient cachés dans cette vieille demeure. Et là, alors, légalement, il y a eu un partage entre les héritiers de la personne qui avait à l'époque caché ce trésor et puis les ouvriers, et eux qui légalement l'avaient découvert. Donc, ils en ont eu une partie.
Ça fait rêver, hein. Et donc, ce week-end, on peut tous partir à la chasse au trésor, en fait.
Oui. Mais non, en fait, c'est pas si simple. Écoutez.
On a une législation qui est très précise, c'est-à-dire qu'on peut utiliser dans certaines circonstances le détecteur de métal sur la plage, par exemple, mais on n'a pas le droit de faire de prospection trésoraire avec, légalement. Donc concrètement, si on ne peut pas aller sur un site archéologique ou les ruines d'un vieux château, par exemple, avec un détecteur de métal. Il y a une loi française, alors qui est faite pour protéger le patrimoine, mais qui est assez contraignante, contrairement à d'autres pays comme l'Angleterre, où il peut y avoir des accords, des délégations de prospection. En France, ce genre de pratique est réservé aux archéologues, donc on ne peut pas s'improviser comme ça, chasseur de trésors, en fait.
C'est incroyable.
Ouais, c'est génial.
J'adore, on a appris plein de choses. Allume la lumière, c'est dans On défait le monde tous les vendredis. Peut-être tout casser chez moi.
Ça donne envie de faire des travaux.
Ça donne envie.
Si on a l'entendu.
Je suis locataire en plus. Allez,
on va faire ça. 19h37, vous restez bien là. Dans un instant, c'est la deuxième info pour briller au dîner. À tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Déjà 19h39 en ce vendredi, la deuxième info pour briller au dîner, c'est avec Laurent qui nous parle d'une planète.
Oui, vous savez que le robot Persévérance est en train de se balader sur la planète Mars. Eh bien, une agence d'architecture internationale a d'ores et déjà imaginé un projet de ville qui pourrait être construite à partir de 2054. Elle serait achevée d'ici 2100. Le nom de cette ville, Nuwa, du nom d'une déesse protectrice de l'homme dans la mythologie chinoise. Alors, cette charmante commune, eh bien, serait construite en bas d'une falaise martienne, dans une zone protégée des radiations et météorites. La ville serait autosuffisante. Oh là bon, là. Une nourriture à 90% de plantes, ça va pas vous plaire, monsieur Stéphane Carpentier. Nuwa pourrait accueillir jusqu'à 250 000 personnes. Et le milliardaire Elon Musk a montré son engouement pour le projet, ça ne m'étonne pas. Et pour s'y rendre, un service de navette devrait fonctionner avec des fenêtres de lancement ouvertes tous les 26 mois environ. Ouais. Faut pas louper le coche. Après, tout cela reste de l'ordre du fantasme.
Évidemment. Deuxième info pour briller au dîner, signé Laurent Tessier à 8h20.
RTL.
Le loser de la semaine.
Ah, le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, non, vous nous avez dégoté un bon gros loser de compète comme on les aime. Un mafieux un peu trop tatoué.
Et oui, l'Italien Marc Ferenbiart, un gros poisson de la mafia calabraise, en cavale depuis des années, caché quelque part dans les Caraïbes, dans un petit village en bord de mer. Un gros dur, un trafiquant de cocaïne sous mandat d'arrêt, mais qui a un talon d'Achille. Son amour de la cuisine italienne. Un amour si grand qu'il en partage les recettes sur YouTube. Peut-être le mal du pays, son repentir à lui, on ne saura jamais. Précaution tout de même de gangster, il ne montre jamais son visage, mais on y voit ses mains, ses bras et ses tatouages.
Il abordait le soir dans son lit la philosophie des pieds nickelés.
Eh oui, gros pieds nickelés, car ses tatouages sont reconnaissables entre mille. La police l'a identifié comme ça. Fini les jours heureux aux Caraïbes. Il a été extradé sur le champ à Milan, où il sera jugé dans le méga procès de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Alors, question. Comment, dans l'histoire des stars des tutos de cuisine, on passe de ça...
J'ai fait revenir mon foie gras, mes magrets. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. On ne va pas dire que ce soit nourrissant, nourrissant, mais c'est pas mauvais. Voilà, on dit.
À ça. Alors, en faisant mes recherches, j'ai trouvé le chaînon manquant, les messages crypté de Maïté, qui ont pu, je crois, inspirer la mafia sanguinaire d'Italie.
On va le signer, on va le tuer. Et on va le tuer, car on va le mettre ici. Voilà, nous l'avons mis là, et on va le saigner comme on fait bien chez nous.
Ah oui, vous l'assommez un petit coup, là, pour l'enfuir.
Moi, je vais prendre le couteau.
Ça y est, je vous la tiens.
La tête et moi le corps.
Et bien maintenant, on va la tronçonner.
Voilà, la mafia n'a qu'à bien se tenir.
Ouais, c'est vrai qu'on s'y croirait. Mais ce Marc Biard, là, c'est pas le seul mafioso à s'être fait pincer après une gaffe, non ?
Non, un autre chef de l'Ndrangheta, tueur à gage de sang-froid, Pasquale Manfredi, connu pour avoir fait usage d'un lance-roquette, notamment en pleine rue, a lui aussi commis une erreur de débutant. Depuis sa cachette en Calabre, il n'a pas résisté à se connecter à Facebook avec son pseudonyme Scarface. Là, c'est plus un indice, c'est carrément un appel de phare. Une connexion détectée par la police italienne et donc c'est son faible pour les réseaux sociaux qui a mis fin à sa cavale. Pourtant, en France, notre ministre Bruno Le Maire l'avait prévenu.
Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent. Malheureusement, c'est pas ça qui vous permettra de développer votre liberté.
Et oui, il ne va pas développer sa liberté tout de suite hein, quand on vous dit que les écrans sont une prison.
Voilà, joli titre de loser de la semaine. Il méritait bien. Hein, signé Marie Mollet. Le jeu, on a des cadeaux.
Ah, enfin le moment de se faire plaisir.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Monsieur Cadeau, Grégory Caradoni et tous ces casous n'ont pas un, mais deux cadeaux extrêmement complémentaires ce soir.
Mais c'est incroyable. En fait, toute la semaine sur RTL, grâce à Jeff Debruge et RTL, on vous offrait 1,5 kg de gourmandise à l'occasion des fêtes de Pâques. Alors, il y avait un petit œuf, du lapin en guimauve, du chocolat au lait enrobé, etc., etc. Eh bien, on vous offre ça ce soir. Oh. Sauf que dans Défait le Monde, évidemment, on prend soin de vous. C'est-à-dire que on vous offre du chocolat pour vous régaler. Mais si après, vous êtes un peu mal dans votre corps, eh bien, on vous offre un abonnement d'un an au programme Croque Kilo. Bah oui, au moins, vous allez être heureux, vous allez manger du chocolat et puis après, vous allez pouvoir vous sentir bien dans votre summer body Croque Kilo. Ça s'écrit C-R-O-Q-Kilo avec un S.com si vous voulez aller jeter un œil. C'est un programme de coaching minceur avec des menus personnalisables pendant la semaine avec plus de 4000 recettes diététiques et gourmandes. Bon appétit, bonne fête de Pâques et puis bon croque-kilo.
Formidable. Alors, pour gagner ce double cadeau, extrêmement complémentaire, la question. Tout à l'heure, on parlait de trésor. On vous racontait une histoire avec des ouvriers qui ont trouvé des pièces d'or. Mais quel type de pièces d'or c'était ? Est-ce que c'était A, des louis d'or ? B, des Jean-Michel d'or ? Ou C, des Maureen d'or ? Vous vous souvenez de Maureen d'or ? Présenter des trucs à la télé. Alors, des louis d'or, des Jean-Michel d'or ou des Maureen d'or ? Vous avez la bonne réponse, 32,10 pour le kilo de chocolat et le croque-kilo.
Bonne chance à vous tous, c'est parti pour le standard 3-2-1-0 sur votre téléphone.
On défait le monde sur RTL.
19h44, c'est l'heure du billet retour quand on revient sur une info, Cyprien, qui a fait la une et qui a depuis disparu.
Au programme ce soir, une histoire qui avait effrayé et intrigué tout le pays. Souvenez-vous, c'était en 2018.
C'est un problème de santé pour le moins mystérieux. Dans l'Ain, plusieurs bébés sont nés avec une malformation des membres supérieurs.
Autour de Druyat, ce village de l'Ain, en 5 ans, 7 bébés sont nés sans bras ou sans mains.
De 7 cas, on en est aujourd'hui à 18 et le phénomène a pu être observé dans d'autres régions.
Un nombre étonnamment élevé de bébés nés avec des malformations, tous quasiment au même endroit. À l'époque, on avait beaucoup parlé de ça. 3 ans plus tard, Laurent, on en est où ? Et d'abord, est-ce que le phénomène s'est arrêté ?
Alors oui, selon les différentes informations disponibles, hein, depuis 2014, il n'y aurait pas eu d'autres cas d'agénésie transverse des membres supérieurs, hein, c'est-à-dire une absence de main et ou d'avant-bras dans cette zone du département de l'Ain. Des cas observés également il y a plusieurs années en Loire-Atlantique et dans le Morbihan. Pour le territoire de l'Ain, les autorités sanitaires ne reconnaissent aucune anomalie statistique, hein, par rapport à la moyenne nationale, pas d'excès de cas. Mais le 9 février dernier, une étude est publiée dans une revue américaine spécialisée avec notamment Emmanuelle Amar, la directrice générale du registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes.
La conclusion, elle, est qu'il y a bien effectivement un cluster, donc un agrégat de cas d'enfants qui sont nés porteurs de cette malformation très spécifique, très rare, qui ne survient que pour une naissance sur 10 000 naissances, dans un petit périmètre du département de l'Ain, qu'on peut comparer à un cercle qui aurait un rayon de 16 km.
Emmanuel Amar parle bien d'un cluster dans l'Ain, d'un phénomène qui ne serait pas lié au hasard. Plusieurs hypothèses sur l'origine de ces malformations sont lancées.
Plusieurs pistes qui vont d'un produit phytosanitaire peut-être utilisé par erreur ou en cocktail ou peut-être de contrebande. Ces familles-là se trouvent toutes dans des milieux très ruraux, très humides. Donc, on peut imaginer un épandage qui serait retrouvé dans la nappe phréatique, puis ensuite reversé via les canalisations d'eau, enfin le système de distribution d'eau.
Une plainte contre X a été déposée dans l'Ain il y a un an et demi par la mère d'un enfant. Elle a d'ailleurs été entendue début février par les enquêteurs de la police de l'environnement à Marseille. Seconde plainte il y a deux semaines d'une famille dans le Morbihan.
Et alors, que répondent les autorités sanitaires et puis il y a d'autres spécialistes aussi qui se sont posés la question.
Le constat est clairement différent. Alexandra Menaki est chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Et suite à l'alerte d'Emmanuel Amar en 2018, elle a présidé un comité d'experts scientifiques, 20 spécialistes, qui ont rendu un premier rapport le 12 juillet 2019. Tout avait été repris cas par cas.
Nous avons conclu qu'il n'y avait pas de cluster dans l'Ain. Et un des éléments que nous avons mis en évidence, c'est que les enfants n'étaient pas tous porteurs d'agénésie transverse des membres isolés et que certains cas avaient des pathologies qui n'étaient pas identiques à celles des autres. Donc quand on parle de cluster de malformation, il faut que toutes les malformations soient identiques. Donc les éléments de cet article scientifique ne sont peut-être pas tout à fait conformes à la vérité scientifique.
Pour le département de l'Ain, les investigations ont été arrêtées. Pour la Loire-Atlantique et le Morbihan, un second rapport avec des analyses complémentaires doit être rendu dans les deux mois à venir.
Et alors, les experts, ils ont des hypothèses pour expliquer ces malformations qui restent quand même très rares.
Là aussi, ils ont plusieurs pistes, impossibilités pour ce type de malformation. Écoutez le professeur Alexandra Benaki.
Il y a des causes connues qui peuvent être un diabète chez la mère, la consommation de tabac peut être également un facteur de risque. Donc on sait qu'il y a des facteurs de risque connus.
Emmanuel Amar nous parlait de l'hypothèse d'un produit agricole. Qu'en pense Alexandra Benaki ?
C'est possible. On sait que certains produits peuvent donner ce type de malformation. Mais de là à dire que dans cette région, il y a eu un produit déversé, regardez sur la carte, les cas sont très éloignés pour parler de causes communes liées à éventuellement un épandage ou un produit déversé.
Mais alors, au final, Laurent, maintenant qu'on a eu toute cette affaire, est-ce que depuis on dispose de plus d'informations sur le nombre de cas de malformations très rares en France ? Comment on peut mieux les détecter ?
Avec plus de moyens afin de surveiller les anomalies congénitales, Santé publique France coordonne un réseau de 6 registres qui couvrent 19% des naissances en France. Le service de presse nous l'a précisé dans un mail ce matin. Plusieurs territoires ne sont pas couverts. Un appel à projet à candidature pour la création d'un 7e registre a été lancé. En attendant, l'affaire des bébés sans bras n'est pas encore terminée.
Enquête, billet retour signé ce soir. Laurent Tessier dans Des Faits Le Monde. Vous restez là, une poignée de secondes nous sépare de la troisième info pour briller au dîner. À tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
L'acte 3 ce soir avec Cyprien Ciné qui nous parle chocolat.
Ce week-end, c'est Pâques, la traditionnelle chasse aux œufs, tout ça, mais alors... Pourquoi des œufs en chocolat à Pâques ? Eh bien, chez les chrétiens, c'est la fin du carême, période de jeûne, d'abstinence. Et autrefois, pendant cette période d'effort, eh bien, on n'avait pas le droit de manger des œufs notamment. Alors, pour fêter la fin de ces privations, on s'offrait tous les superflus d'œufs pondu pendant le carême qu'on n'avait pas mangé. Eh oui, c'est de là que vient l'œuf de Pâques. Ensuite, au 19e, les chocolatiers ont eu l'idée de garder la tradition de l'œuf, mais en chocolat.
Mais en chocolat.
Pas mal, hein.
C'est pas mal, elle est pas mal.
Attendez, lundi avec les enfants, faut être un carton, ça, dans le jardin.
Ouais, j'ai 5 minutes.
Il essaie de vous acheter, là.
Bon, il peut toujours tenter, 19h52.
Marche ou rêve
dans Des Faits Le Monde, c'est quand on met en valeur vos idées, vos initiatives.
Et pour coller à l'actualité, Laurent, en ce week-end de Pâques, vous nous faites découvrir un prêtre vraiment pas comme les autres.
Oui, un prêtre connecté 2.0, à bientôt 31 ans, père Vincent Cardo du diocèse de Langres en Haute-Marne, fait le buzz sur Internet depuis un an, le premier confinement. Il est sur TikTok, le réseau social des jeunes. 68 000 abonnés pour son compte, le curé de TikTok, et il est avec nous. Bonsoir mon père.
Bonsoir.
Comment êtes-vous arrivé sur ce réseau social ? Racontez-nous.
Eh bien, tout simplement, c'est des jeunes que j'accompagnais en pèlerinage qui m'ont demandé de les suivre sur les réseaux sociaux à travers lesquels ils communiquaient. À l'époque, c'était Snapchat et Instagram. Et moi, j'étais un vieux sur Facebook. Et en fait, à travers ça, j'ai fini par découvrir TikTok. Et c'est de là que tout ça a commencé.
Et quel type de vidéos réalisez-vous, finalement ?
Alors, il y a plusieurs types de vidéos. Au départ, c'était des petites vidéos où je parlais pendant une minute sur un thème, donc c'était plutôt un aspect d'enseignement. Et puis, j'ai découvert que sur TikTok, il y avait des choses qui étaient virales, et donc j'ai essayé de m'inscrire dans les tendances du moment, en les reprenant et en les christianisant. Et puis, j'ai vu qu'il y avait des questions qui m'étaient posées en commentaire, et donc j'ai commencé à répondre aux commentaires, aux questions qui m'étaient posées dans les commentaires.
Et c'est marrant, les jeunes, ils vous posent quoi comme question, par exemple ?
Il y a vraiment toutes sortes de choses. Il y a des questions qui sont plus d'ordre moral, d'autres qui sont plus autour de ma vie de prêtre, d'autres qui sont plus des questions de théologie, des questions spirituelles. Donc voilà, ça peut être des questions sur la Trinité, comment Dieu est trois en un, des questions sur ma vie de prêtre, comment est-ce que je prie, des questions pour eux-mêmes, comment prier.
Et vous attendiez à ce qu'il y ait un vrai succès ou pas ? Enfin, franchement.
Oui et non. J'avais bien compris que, en me renseignant un petit peu, que TikTok était un réseau qui connaissait une forte croissance. Et si je m'y suis lancé, en fait, c'est que j'ai vu qu'il n'y avait aucun prêtre à ce moment-là sur ce réseau. Maintenant, on est une petite dizaine et j'en suis très heureux. Et je rends hommage au Père Mathieu qui m'a largement doublé en termes d'abonnés aujourd'hui.
Qui a 400
000 abonnés. Voilà, c'est ça. Il y avait une croissance. Je voyais que c'était un lieu où il pouvait y avoir une croissance. Et en même temps, j'étais très humble parce que ça faisait 2 ans qu'on travaillait avec les jeunes sur Snapchat et Instagram. Et on avait très peu d'abonnés.
Et que vous disent les paroissiens ? Je crois savoir que certains se sont même mis à TikTok.
Oui, j'ai quelques paroissiennes plutôt âgées, des gens qui ont 70-80 ans, qui se sont mis sur TikTok. Et puis, il y a des plus jeunes, effectivement, qui y étaient déjà et qui m'y ont retrouvé par surprise ou qui s'y sont mis en sachant que j'y étais.
Voilà. Allez-y, Marie. Est-ce que vous avez l'impression que l'Église n'a pas encore assez investi, les réseaux sociaux a pris un peu de retard ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur Facebook aujourd'hui, beaucoup de choses aussi sur Instagram, et puis ben voilà, sur TikTok ça vient progressivement, mais c'est vrai que je découvre qu'il y a encore d'autres réseaux sociaux qui existent, et c'est vrai qu'aujourd'hui ça occupe une place très très importante, et comme chrétien on croit en l'incarnation, Dieu s'est fait homme, et on croit que les relations humaines, les relations concrètes, directes, sont irremplaçables, et donc on a du mal à s'en détacher totalement. Et donc il y a un lien à garder avec ça entre les écrans et des relations concrètes, quoi.
Et bien merci beaucoup Père Vincent Cardo. Je rappelle votre compte TikTok, le curé de TikTok. Vous avez TikTok, Stéphane?
Pas du tout. Mais alors pas du tout.
Stéphane, il a pas Facebook.
19h55.
On a un gagnant ce soir, Cyprien.
Un gagnant, il s'appelle Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Alors, on va quand même vérifier avec la question du soir. Hein. Comment s'appelle le trésor ? Est-ce que c'est des Louis d'or, des Jean-Michel d'or ou des Maureen d'or ?
Ah, je crois que c'est les Louis d'or.
Bravo, Nicolas, c'est gagné ! Vous vous souvenez de Maureen d'or ou pas ?
Ouais, ah oui, très, très bien. Ouais, ah, très bien. C'est bien comme nom aussi.
On l'embrasse, si elle nous écoute. Vous appelez d'où, Nicolas ?
J'appelle de Tours.
Ah, Tours. Ok, donc 1,5 kg de chocolat pour vous et 1 an de programme coaching. Hein,
super.
30 kilos.
Avec 30 kilos.
Ah, c'est génial, mais merci beaucoup.
Ah bah, c'est un plaisir, vous êtes un fidèle de l'émission.
Oui, je suis un fidèle de l'émission, j'aime bien.
On vous dit à tout bientôt, merci d'être là et bravo en tous les cas. Et on rejouera vendredi prochain avec toute l'équipe.
Ah oui,
c'est Marie Mollet qui est la gagnante.
Ah, merci Stéphane, je savais qu'avec la boule à facettes.
Toute mon époque, moi j'ai pas TikTok.
Elle sera avec nous la semaine prochaine.
Bah oui, elle sera de retour.
Et Brice, normalement.
Décontacté.
Oui, Brice,
qu'est-ce qu'on a fait ? Brice aussi, on espère.
Non, Brice, à mon avis, 15 jours, c'est bien.
Allez, à vendredi prochain, toutes les équipes ont défait. Le podcast arrive très vite sur les réseaux sociaux, bien sûr, et sur l'appli RTL. L'actu après ça.
On défait le monde sur RTL.